Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 19. Exode chapitre 19, du verset 16 au verset 21. Exode 19, 16 à 21. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était assis dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. » Nous tournons la page, nous allons au chapitre 20, 18 à 22. Exode 20, 18 à 22. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Amen. Voilà cet épisode, on nous dit que Dieu parle à Moïse. Et c'est notamment à ce moment, au chapitre 20, que Dieu donne les commandements à Moïse. Mais avant cela, Dieu dit à Moïse, « Sanctifie le peuple. Un jour, deux jours, et le troisième jour, je descendrai pour parler au peuple. » Moïse, lorsqu'il montait pour parler à Dieu, le peuple croyait que c'était une blague, c'était un jeu. Et dans un souci de démocratie, pourquoi Dieu te parle à toi? Pourquoi Dieu ne nous parle pas à nous? Eh bien, nous voulons aussi que Dieu nous parle. Moïse a fait cette requête à Dieu. Et Dieu dit, dans ce cas, prépare le peuple. Sanctifie-les. Et nous n'avons pas lu, mais Dieu a dit à Moïse de délimiter la montagne, de mettre une séparation, parce que si un homme traversait cette limite, il mourrait directement. Il dit à Moïse, dit à Aaron, au sacrificateur, qu'ils ne s'approchent pas. Pourtant, ils étaient sacrificateurs. Et il dit à tous ces gens qu'ils ne s'approchent pas. Parce que s'ils s'approchent, ils vont mourir. Et Dieu parle à Moïse. Il dit, je te parlerai depuis les cieux, afin que, quand on parlera, le peuple sache qui je suis, mais pour que le peuple te craigne. Et au verset, au chapitre 20, qu'est-ce que nous voyons? Le peuple entend la voix de Dieu et le peuple s'enfuit, il s'éloigne. Il dit à Moïse, non, on ne peut pas supporter ça. Que Dieu te parle et ensuite, toi, tu viendras nous parler. Pour le peuple, c'était comme un jeu. Ils se sont habitués à la manière de Dieu d'agir, de parler par un simple homme. Eh bien, ils se sont dit, bon, finalement, nous aussi, Dieu peut nous parler aussi. Et Dieu a dit, ok, je veux venir parler. Et lorsque Dieu vient parler, le peuple est pris d'épouvante. Il a peur, il dit à Moïse, non, que Dieu ne nous parle pas, qu'il te parle à toi. Le thème de notre exhortation ce matin, c'est prendre Dieu au sérieux. Qu'est-ce qui a fait que ce peuple, finalement, lorsque Dieu s'est manifesté pour parler, ce peuple a eu peur parce que ce peuple a négligé qui était Dieu. Ce peuple n'a pas pris Dieu au sérieux en réalité, selon qu'il est Dieu, le créateur de toutes choses. Ils ont imaginé que Dieu avait peut-être le même pouvoir, la même force qu'un homme. Et lorsque Dieu est descendu, on a lu, hein, des trompettes retentissaient, on imagine un peu ça. Des bruits comme des tremblements de terre. Une épaisse fumée. Et là, Dieu parle. Le peuple a peur. Il dit non, on ne peut pas supporter cela. Le Seigneur veut que nous puissions le prendre au sérieux. Quand on dit Dieu, que nous puissions réaliser ce qualificatif, ce nom Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Quelle est mon attitude vis-à-vis de Dieu? On se rappelle lorsque le Seigneur Jésus nous donne la prière à faire. Et il dit aux disciples, lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Et quand on considère quelqu'un comme Père, ce n'est pas juste un nom. C'est un nom qui a une qualification, qui a des prérogatives. Quand je dis c'est mon père, ça sous-entend que je dois adapter mon comportement, mon attitude vis-à-vis de cette personne-là. Je reconnais qu'elle a une certaine autorité sur moi. Et ce peuple, dans un élan de démocratie, finalement, Dieu nous parle aussi, on se rappelle dans Nombre 13, Nombre 14, la révolte de Corée, d'Abiram, avant ça, d'Aaron et Marie, qui disent à Moïse, mais Dieu ne te parle pas qu'à toi, Dieu parle à tout le monde. Effectivement, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu nous parle à nous tous. Nous avons tous la parole de Dieu. Nous avons tous la Bible. Mais malheureusement, certains comprennent mal les choses, ils se disent, bon finalement, si Dieu parle à l'autre, eh ben, nous sommes tous pareils aussi, parce que Dieu me parle aussi. Et on néglige finalement qui est Dieu. Et c'est dans quoi ce peuple est tombé. À négliger qui est Dieu. À ne plus prendre Dieu au sérieux. Et Dieu, par cet acte, il a voulu rappeler au peuple qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant. Lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour faire des sacrifices, il y avait un protocole à suivre. Et tout ça était pour rappeler au peuple que Dieu n'est pas n'importe qui, Dieu est saint. Et c'est ce que Jésus dit, il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, tu es mis à part, tu n'es pas au même titre que les humains, tu es mis à part, tu ne te trompes pas. Lorsque tu fais des choix, eh ben, tu tiens compte de tous les éléments. Et ce peuple a négligé cela. Nous lisons toujours dans Exode, nous sommes sur la page 20, le verset 7. Exode 20, au verset 7. Le Seigneur dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne le sera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Amen. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. On a déjà eu un enseignement là-dessus, une fois. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Quand tu prononces le nom de Dieu, Ne prononce pas ça comme une formule, comme c'est devenu pour certains. On se cogne, on dit « Ah !» On sort le nom de Jésus, on sort le nom de Dieu. Dieu dit « Je ne laisserai pas cela impuni. » Et c'est étonnant parce que quand on lit tous les commandements, il n'y a pas de conséquences directes d'une action de Dieu, d'une punition de Dieu. Mais là, Dieu dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. » Et le peuple était là, à parler de Dieu, à critiquer Moïse, à dire « Dieu nous a fait sortir d'Égypte, Dieu, Dieu. » Et finalement, ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le milieu chrétien de manière générale, beaucoup se disent chrétiens. Mais lorsque on voit la vie de la personne, on se dit, mais c'est même pire qu'un païen. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo où aux États-Unis, des pasteurs qui ont de très grandes églises font des, je ne sais même plus comment on s'appelle, des télé-réalités. Ils se disent serviteurs de Dieu et on pose la question à un. On dit, mais toi, tu es divorcé, tu as trompé ta femme. Et non seulement ça, tu as commis l'infidélité, mais tu as eu un enfant avec une autre femme. Et l'autre s'explique. Il dit, mais moi je suis pasteur, mais je suis aussi un homme. J'ai ma vie privée en tant qu'homme et j'ai ma vie en tant que serviteur de Dieu. Et la façon dont il parle avec une certaine colère, on se dit, mais est-ce que c'est du spectacle ou c'est du sérieux? Mais pourtant, ces gens prétendent être de Dieu. Et ils sont suivis par des foules. Ils sont suivis par des foules. Et c'est ça que le Seigneur dit. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Le nom de l'Éternel est sacré. Dieu est grand, il est tout puissant. On ne peut pas blaguer, rigoler avec le nom de l'Éternel. Je voyais la vidéo d'un autre commerçant, je ne dis même pas serviteur de Dieu, qui porte plainte contre un catcheur, un sataniste. Le catcheur lui-même dit, mais moi je suis un sataniste, je travaille pour Satan. Il dit, mais qu'est-ce que ce pasteur-là va chercher à m'accuser? Et pourquoi? Parce que le soi-disant homme aurait maudit l'équipe parce que ce pasteur-là a une équipe de football. Eh bien, le sataniste aurait maudit l'équipe de ce pasteur. Et il se retrouve au tribunal. Mais quel théâtre! Et comment il sait que l'autre a maudit, soi-disant par révélation ou par songe? Mais voilà où on arrive. Mais ces gens-là, eh bien, ils sont suivis. Ils sont écoutés. Il prend la Bible, il parle soi-disant au nom de Dieu. Et le Seigneur dit, l'Éternel ne le laissera pas impuni, celui qui prend son nom en vain. Il ne laissera pas impuni cela. Il y a tellement d'exemples, mais ce n'est pas le but de ce matin. Le but de ce matin, c'est de nous dire, tout simplement, prenons au sérieux qui est Dieu. Prendre Dieu au sérieux. Lorsque Dieu dit, tu ne prendras pas mon nom en vain, les Juifs ont pris cette parole de manière littérale. Ce qui fait que certains ne prononcent pas le nom de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire, ce n'est pas ça l'intention. Je peux ne pas, en parlant de Dieu, ne pas prononcer son nom parce que j'estime qu'il est tellement grand. Mais finalement, ne pas vivre selon sa volonté, à quoi ça sert? Quand Dieu dit, tu ne prendras pas mon nom en vain, ça veut dire, quand tu prononces mon nom, aie conscience de qui je suis. L'Éternel qui pourvoit, eh ben, ne dis pas, parce que c'est devenu une formule, oh l'Éternel qui pourvoit, oh l'Éternel j'irai, oh l'Éternel. Non, quand tu le dis, Sois conscient de qu'est-ce que Dieu peut faire. Quand Abraham a dit cela, c'est parce qu'il a vu que Dieu a pourvu. Alors qu'il allait pour sacrifier son fils. Il n'a pas dit ça par émotion ou par sentiment. Mais quand tu prononces le nom de Dieu, prononce-le avec sérieux. C'est ce que nous dit 2 Timothée 2 au verset 19. Nous lisons ça. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom de Dieu qui fasse quoi ? Qui s'éloigne du mal. Donc quand Dieu dit « tu ne prendras pas mon nom en vain », ça ne veut pas seulement dire ne pas prononcer le nom de Dieu. C'est quand tu prononces le nom de Dieu, que ta vie soit aussi en accord avec ce que tu professes, ce que tu dis. Je suis chrétien, que ta vie manifeste que tu es chrétien. Chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire disciple de Jésus. Ça veut dire comme Jésus. Amen. Amen. Chrétien, ça veut dire comme Christ. C'est ça que ça veut dire, chrétien. J'ai la vie de Jésus-Christ en moi. Le vendredi, pour ceux qui étaient là, on a parlé sur le fait, la question c'était, Jésus-Christ est-il le Seigneur de notre vie? C'était ça le thème de vendredi. Et on a pris l'exemple de cet homme dans Luc 18 qui vient voir Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Jésus lui dit, bon, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il dit, voilà, il faut honorer tes parents. Ne dis pas de faux témoignages. Il faut aider, prendre soin des autres, manifester la compassion, l'amour, l'hospitalité, toutes ces choses. Jésus l'aima. Il lui dit, maintenant, il te manque une chose. Tout ce que tu possèdes, vends-le et suis-moi. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que cet homme, quand il vient voir Jésus, et dans la version de Marc, c'est écrit, il vient même se jeter aux pieds de Jésus. Cet homme avait un souci dans son cœur. Son souci, c'était le salut. C'était le salut. Mais Jésus lui dit, pour accéder à ce salut-là, c'est vrai, moralement, tu es correct. Maintenant, accepte que je sois Seigneur dans ta vie. Et on avait dit, beaucoup de chrétiens veulent de Jésus comme étant le sauveur. Ils veulent le salut de Dieu, mais ils refusent que Jésus soit le chef dans leur vie. Jésus le chef, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on te calomnie, on te critique, tu bénis la personne. Le Saint-Esprit te met à cœur que là, tu as mal agi, même si tu n'as pas dit un péché, tu n'as pas insulté une personne, mais dans ton intention telle que tu as parlé, tu étais en colère, tu as voulu te venger, le Saint-Esprit te dit, va demander pardon. Et tu obéis. Même si ça fait mal à la chair, tu vas, puisque Jésus-Christ est ton Seigneur, tu obéis, tu vas. Tu dis, bon, Seigneur, mon frère ou ma sœur, voilà, je t'ai parlé. Peut-être que tu n'as pas remarqué, mais moi, je sais, parce que j'ai été repris par le Saint-Esprit dans mon cœur. Je te demande pardon. C'est ça Jésus-Christ Seigneur. C'est renoncer à soi-même, vivre pour Dieu. C'est accepter de porter sa croix tous les jours. Et c'est ce qu'on avait dit. Et malheureusement, beaucoup veulent du salut de Dieu, veulent de Jésus, le Sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Et on avait dit aussi que malheureusement, beaucoup seront surpris. On avait pris Matthieu 7, 21 qui dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que Jésus Sauveur et Jésus Seigneur sont indissociables. On ne peut pas séparer cela. Je me rappelle le séminaire qu'on avait fait sur la puissance de Dieu. Il avait été dit que certains veulent la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas le règne de Dieu. Or, les deux sont inséparables, indissociables. On ne peut pas vouloir de la puissance de Dieu sans que Dieu lui-même règne en nous, parce que c'est la puissance de qui ? On dit bien c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui manifeste cette puissance-là. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut que notre vie lui soit totalement soumise. C'est cela. Et cet homme vient voir Jésus. Seigneur, je veux la vie éternelle. Jésus lui dit oui. Réfléchis bien sur ce que tu cherches. Sois conscient, prends cela au sérieux. Et le Seigneur veut ce matin que nous puissions le prendre au sérieux. Quand nous prononçons le nom de Dieu, que nous puissions réaliser qui nous sommes. Que nous puissions réaliser aussi qui est Dieu. Certes, il peut arriver qu'on désobéisse à Dieu, qu'on pèche contre Dieu, mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est quel est le choix qu'on fait. Et c'est ce qu'on avait dit encore vendredi, en prenant l'exemple de Zachée, qui était un homme connu comme étant un mauvais, un voleur. Les gens pointaient même du doigt Jésus en disant, voilà, il est allé loger chez un homme mauvais. Mais Zachée, bien qu'il soit mauvais, il a fait le choix de suivre le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut aussi pour nous, que nous puissions faire le choix. Quel est le choix que nous faisons aujourd'hui? Seigneur, aujourd'hui, je reconnais qu'en moi, j'ai des désirs qui sont impurs. Je reconnais que j'ai des pensées qui ne sont pas bonnes. Je reconnais que j'ai tendance à me laisser aller à la colère facilement, à la médisance. Mais Seigneur, je fais le choix de t'abandonner ma vie. C'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu veut. C'est cela. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et il est écrit ici que celui qui prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne du péché, parce que sinon, il est en train de dire une condamnation contre lui-même. Mais non seulement ça, il salit le nom de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Prenons Dieu au sérieux. L'apôtre Paul le dit, nous n'allons pas le lire. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 30, lorsqu'il parle de la Sainte Cène, il dit qu'il y a des personnes qui prennent la Sainte Cène sans réellement réaliser que c'est la coupe du Seigneur, c'est l'œuvre de la croix, sans réaliser cela, ce que cela implique. L'apôtre Paul dit, ils prennent sans discernement, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il y a des conséquences derrière. Il y a des maladies, il y a l'infirmité. Mais le message qui est derrière, c'est quoi? Ça rejoint Exode 20. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas possible. Nous lisons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, du verset 28. Au verset 31. Matthieu 21, 28 à 31. Matthieu 28. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et n'y alla pas. « Lequel de deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Amen. Le Seigneur parle aux pharisiens, à ces religieux qui étaient là, qui, de manière visible, servent Dieu, de manière visible, ont une vie qui est plus ou moins mise à part, sainte, avec des vêtements spéciaux, ne mangeant pas telle nourriture, se lavant les mains avant de manger, faisant des rites, observant le sabbat, être pointueux sur toutes ces choses. Mais le Seigneur prend une parabole, il leur dit, un homme avait deux fils. Eh bien, il parle au premier, il dit, va dans ma vigne, va travailler. Le premier dit non, mais ensuite il y va. Le second, il dit, oui mon père, il n'y a pas de problème, je vais aller travailler. J'y vais même tout de suite, même ça c'est moi qui rajoute. Mais finalement, que du vent, il n'y alla pas. Alors Jésus leur pose la question, lequel a fait la volonté du Père? Il répond le premier. Et Jésus dit, les prostituées et le publicain vous devanceront même dans le royaume des cieux. Alors qu'est-ce que ce texte nous apprend par rapport au thème? C'est que le second fils, c'est un peu comme l'image du chrétien qui va venir prier, qui va venir louer Dieu, qui va chanter comme on a chanté « Jésus est Seigneur, Jésus je t'aime ». Mais le Seigneur ne nous attend pas là. Là où le Seigneur nous attend, c'est « As-tu pardonné à un tel ? Es-tu allé t'excuser auprès de ta femme, de ton mari ? As-tu renoncé au mensonge dans ta vie ? À la double vie ? Tout le monde peut chanter, il n'y a pas de problème. Mais on reste dans l'apparence. On reste tout simplement dans l'apparence d'un bon chrétien, d'un homme correct. Mais la réalité est totalement différente. Mais non seulement on trompe les humains, mais la colère de Dieu est là parce que c'est une attitude que Dieu n'aime pas. Vaut mieux encore rester chez soi que venir dans la présence de Dieu. Quand je dis la présence de Dieu, ce n'est pas seulement ici en ce lieu, ça peut être à la maison aussi. Prier, louer Dieu, chanter, alors que dans le cœur, tu as décidé de ne pas pardonner. Et pour Dieu, c'est très grave. C'est très grave, c'est contradictoire. Vaut mieux dire, Seigneur, pour le moment, je sens que je ne suis pas prêt. Alors donne-moi la force. Plutôt que de s'agiter, alors que dans le cœur, on n'est même pas prêt à faire cette démarche-là. On n'y pense même pas. Il y a des chrétiens, pour certaines personnes, ils ont déjà mis une croix. Ils ont dit, telle personne, c'est même pas la peine. Même si les pasteurs font des réconciliations, même si ça sera juste une forme, parce que dans le cœur, c'est fini, il a dit c'est fini. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'était le cas du second fils, qui visiblement aime son père, qui visiblement est obéissant, mais ce n'est qu'une apparence. Mais regardons l'attitude du premier fils. Il a pris son père au sérieux et c'est ce qui nous arrive aussi. Parce qu'on s'habitue. C'est ton père, bon, c'est papa. Il te dit quelque chose, bon, tu traînes un peu les pieds. Et parfois, quand il parle aux gens de l'extérieur, les gens de l'extérieur le respectent. Nous, c'est ce qui nous arrivait. Bon, nous, on nous tirait les oreilles quand on était petits. Mais parfois, papa te dit de faire quelque chose. Oh, je regarde le foot. Mais les gens de l'extérieur, parfois, ce sont des papas. Lorsque notre père donne une instruction, tu vois comment la personne s'exécute dans le cadre du travail, tu te dis, mais lui c'est le papa d'un tel, voilà comment il respecte papa. Et moi qui suis là, parce qu'on est proches, puisqu'on est ensemble dans la même maison, puisqu'on vit ensemble, ben finalement, bon, son autorité ne fait plus si peur que ça. On est habitué. Et c'est en sortant, en allant à l'extérieur, qu'on se rend compte, ah, finalement, je dois vraiment le respecter. Et le premier fils dit non. Mon père, je t'ai dit non parce que ça m'embête, je n'ai pas envie. Mais je vais aller quand même. Il a pris son père, il a pris Dieu au sérieux. Sortant de la religion. Qui nous fait faire des choses de manière mécanique. On vient parce que c'est dimanche. Ou alors on vient parce qu'on veut la paix. À la maison comme ça, bon, ma femme ou mon mari ne dira pas « Ah, non, je viens, je m'assois, j'attends que ça se passe, je regarde l'heure. » Non. Là, vaut mieux même rester encore bien sous la couette, sans problème. C'est pour nous dire, quand on rentre dans la présence de Dieu, réalisons qui Dieu est. Qui il est. Et lorsqu'on réalise cela, eh ben, notre attitude s'adapte. Et la première réaction, c'est qu'on regarde, on voit nous-mêmes qu'on est sale. On se rappelle, je me suis toujours posé la question, lorsque dans Luc 5, Jésus envoie Pierre jeter les filets, il revient avec les filets pleins, qu'est-ce qui se passe? Pierre dit à Jésus quoi? Retire-toi de nous. Nous sommes pécheurs, retire-toi. Pour un miracle, j'ai envie de dire, où est le rapport? Mais le rapport est que à ce moment-là, Pierre réalise que maintenant, Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement le Créateur. Même si on mange avec lui, on dort avec lui, il peut manquer de nourriture, il peut manquer d'argent, mais il se rend compte de qui est Jésus. Il se retire, il dit non. Je ne savais pas que tu étais capable de cela, Seigneur. Mais pourtant, Jésus vivait comme eux, comme tout le monde. Il arrivait qu'il ait faim. On se rappelle dans Jean 4. Il arrivait même que ses propres disciples le contredisent. Pierre lui dit, non, tu ne mourras pas. Mais malgré tout, il savait au fond de qui était le Seigneur Jésus. C'est cela. Et c'est l'attitude du premier fils qui réalise à qui il a affaire. Il dit à son père non. J'ai mal répondu. Et c'est ce que le Seigneur veut. Qu'on soit honnête, qu'on soit franc. Qu'on dise, Seigneur, ce que tu me demandes est difficile. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais pourtant, tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je fais le choix de me laisser conduire par toi maintenant. Donne-moi la force. Ah, c'est ça la prière que le Seigneur veut. C'est ça qu'il désire. Et là, il agit. Et ce premier fils a réalisé à qui il a affaire. Il a réalisé qui est le Père. Il s'est dit, je vais quand même aller. Je vais obéir. C'est cela. Et malheureusement, beaucoup négligent le Seigneur. Beaucoup s'approchent de la présence de Dieu, comme ça a été le cas du peuple, comme on a lu. Ils s'approchent, mais ils ne réalisent pas. C'est que la présence de Dieu. Un humain, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il est convaincu de péché, il est convaincu qu'il n'est rien. Et c'est là que la croix de Jésus-Christ prend son sens. Voilà pourquoi il est écrit, on peut s'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins à cause de Jésus-Christ. On réalise cela. Prenons Dieu au sérieux. Dans notre marche de tous les jours. Prenons cela au sérieux. Nous lisons Luc 10. Luc au chapitre 10, verset 38. C'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de Marthe et Marie. Luc 10. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Amen. Marthe reçoit le Seigneur et elle est occupée à diverses tâches. L'intention est bonne. Mais regardons la réaction du Seigneur. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. On voit l'irritation du Seigneur. Il dit, mais en réalité, tu ne réalises pas que la nourriture que tu vas me donner, elle va passer. Mais moi, ce que j'ai à te donner, c'est quelque chose qui est éternel. Ce que moi j'ai à te donner est plus important que ce que tu es en train de faire maintenant. Jésus est irrité de voir que Marthe ne prenne pas le temps. Parce que situons-nous dans le contexte, Jésus, lorsqu'il allait de maison en maison, qu'est-ce qu'on nous dit? La foule le suivait. Les gens venaient écouter la sagesse, venaient l'entendre. Et lui-même, il parle de lui-même, il dit que au temps de Salomon, la reine de Séba a fait des kilomètres pour écouter, entendre la sagesse d'un homme. Et il dit ici, il y a plus que Salomon. Donc on peut imaginer que lorsque Jésus allait quelque part, il entrait dans la synagogue, les gens suivaient pour écouter, pour l'entendre. Après, tout le monde n'avait pas les mêmes intentions. Il y en avait qui venaient pour contredire. Mais dans tous les cas, les gens prenaient le temps, à tel point qu'un homme comme Zachée est allé voir qui est ce Jésus-là dont on parle. C'est qui? Et là, voilà que Marthe reçoit Jésus chez elle. Elle est occupée, mais Jésus dit, mais Marthe, mais tu me négliges. Ce que je suis en train de donner, c'est quelque chose de sérieux. C'est ma parole. Et tu te plains de ta sœur pour cela, mais ta sœur a compris qui je suis. Ta sœur Marie a compris que les paroles que je donne, ce sont les paroles de la vie. Ta sœur Marie a compris que ne peut pas me négliger. Et malheureusement, beaucoup négligent le Seigneur. Comme on a dit tout à l'heure, nous avons la Bible. On te sort un verset biblique, on dit « oui, mais je sais ». Oui, je connais, parfois on connaît même le verset par cœur. Et on néglige cela. On néglige. D'autres, quand on dit on va prier, ça commence à ronfler. Pendant la prière, la personne commence à dormir. Au moment de servir Dieu, c'est à côté Intermarché. Je vais acheter des couches pour l'enfant. Mais ce sont des réalités. Le Seigneur, l'exhortation, c'est moi le premier. C'est prenons Dieu au sérieux. Réalisons qui est Dieu. Réalisons qui est Dieu. Là où je travaille pour le conseil départemental de l'Eure. Quand on nous dit qu'un conseiller départemental va venir visiter le foyer, mais il faut voir les travaux qu'ils nous font en quelques heures. Ils font la peinture, ils tondent la pelouse. Mais un simple conseiller, c'est même pas le président du département, même pas. Même pas le président du département. On nous dit un délégué va venir, mais on prépare tout pour que tout soit nickel. Alors quand je vois ça, je me dis, mais imaginons qu'on dise, le premier ministre va venir, mais je pense qu'il y aura même des guirlandes dans le ciel si c'est possible. Un simple délégué. Là où il y avait des trous dans les portes parce que les jeunes ont mis des coups, on change la porte. Là, on ne se pose même pas de question, il n'y a pas de budget. Non, là, il y a un budget qui sort. Il y a un budget qui sort tout de suite. Les carreaux cassés, on change tout. Alors que c'est un homme qui a un mandat qui va passer. Et nous, nous avons affaire à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Alors on a rendez-vous avec lui, on dit, bon, je vais aller acheter le goûter pour les enfants. Sois en sérieux, bien-aimé, sois en sérieux. Sois en sérieux, et c'est ce que Jésus est en train de dire. Ici à Marthe, il dit, mais non. Le temps de faire la nourriture viendra, tu feras cela. Mais là, c'est le temps pour Dieu, pour prendre Dieu au sérieux. Le rendez-vous de la prière, c'est 18h. Tu arrives à 18h30, il y a des spécialistes pour ça. Il y a des grands spécialistes. Quoi qu'il arrive, on sait que la personne sera en retard. Mais tout ce que nous sommes en train de citer, ça montre qu'il y a une négligence. On peut avoir toutes les raisons qu'on veut. Oui, mais je pense que si on est sérieux, on peut s'organiser. On peut prendre de l'avance. Il y a qui va dire, bon, c'est à cause de ma femme que je suis en retard. C'est à cause, je dis, ah ben dans ce cas-là, réveille-toi plus tôt. Si tu sais que la personne a besoin d'une heure pour se préparer, mais réveille-toi plus tôt. Prends de l'avance. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Il dit, non, tu me négliges. Si tu savais qui je suis, il a dit à la femme samaritaine, « Oh femme, je te demande de l'eau, mais si tu connaissais quel est le don de Dieu, en réalité c'est toi. » Et effectivement, la femme a compris, elle a dit, « Oh là là, j'allais passer à côté du Seigneur et des Seigneurs. » Elle est allée, elle a couru, elle est allée dans le village pour dire, « Venez voir. J'ai rencontré le Fils de Dieu. » Prends Dieu au sérieux. Lorsque c'est un temps avec le Seigneur, prends ça au sérieux. Même quand tu es tout seul, considère que tu es avec le Seigneur, que tu lui parles. Il y en a pendant le culte, il faut rappeler les chewing-gums. Mais ce sont des attitudes qui manifestent, qui a une négligence, mais ça va plus loin. Qu'on ne prend pas Dieu au sérieux. Qui peut mâcher un chewing-gum devant le président de la République, ne serait-ce que le maire? Tu es en rendez-vous avec le maire, tu arrives, déjà tu t'habilles, tu te mets vraiment pour manifester quand même que tu as de l'intérêt pour lui. Prendre Dieu au sérieux dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Le peuple s'est dit, oh Dieu, on a la... Comme ils avaient l'habitude d'entendre Dieu, hein. Moïse dit, l'Éternel a dit, l'Éternel, oh, l'Éternel, c'est devenu une chanson. Mais là, l'Éternel lui-même est venu. Le peuple a dit, non, Moïse, non, on ne peut pas. On comprend, on sait maintenant, mais malgré tout, on sait qu'il a quand même désobéi, le peuple. Mais à ce moment-là, il a réalisé qui est Dieu. Et qu'est-ce qui peut faire que, finalement, on ne prenne pas Dieu au sérieux, c'est comme j'ai dit. C'est le premier point, c'est un problème de conversion. La conversion, c'est le fait de faire demi-tour, de dire, bon, Seigneur, je pensais que j'étais chrétien. Je suis peut-être issu d'une famille chrétienne. Peut-être que j'ai baigné dans tout ce qui est lié à Dieu. Peut-être même que je travaille même pour toi, Seigneur. Mais je me rends compte que je ne t'ai pas confié ma vie véritablement. Tu n'es pas le chef. Tu n'es pas le Seigneur dans ma vie. Seigneur, je décide aujourd'hui de vivre pour toi. Et je te donne ma vie. Je reconnais le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix. C'est ça la première étape. Beaucoup ne prennent pas Dieu au sérieux, comme tous les exemples que j'ai donnés de ces faux pasteurs-là. Bon, là, beaucoup sont vraiment des vrais satanistes. Et d'autres aussi, ce sont des gens qui ont vu des gens faire des choses et qui ne sont pas convertis réellement. Ils ne sont pas convertis. Et une autre chose qui fait aussi qu'on ne prenne pas Dieu au sérieux, c'est la religion, c'est l'habitude, c'est la routine. On vient à l'église tous les jours, on écoute les enseignements, on écoute les prédications comme ce matin. On va rentrer et puis bon, la vie continue. Mais le problème, c'est que lorsque le Seigneur viendra pour nous juger, c'est en fonction de sa parole. Matthieu 7, 21, il dira, « Retirez-vous de moi, car vous n'avez pas accompli ma volonté. » C'est cela. On se rappelle de l'histoire dans Luc 16, de l'homme riche qui se retrouve en enfer. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve en enfer? Parce qu'il a refusé d'obéir à la parole, de se soumettre à la parole de Dieu. Mais il s'est rendu compte que finalement, c'était trop tard. Il n'y avait pas de chemin retour. Il n'y avait pas de chemin retour, c'est trop tard. Sortons de la religion. À chaque fois qu'on a une réunion, à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, eh ben, méditons qui est Dieu. À chaque fois. Moi-même, lorsque j'écoute un chant, je ne m'arrête plus sur la musique, j'écoute aussi les paroles. Quelles sont les paroles? Et quand on a cette attitude-là, bien souvent Dieu nous parle. Au travers même d'un mot dans la chanson, eh ben, c'est comme la réponse de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'on prend cela au sérieux. On estime que Dieu a inspiré cela. Alors si ça tombe sur mes oreilles, dans mes oreilles, si Dieu permet que j'entende, c'est qu'il a à me dire, même si c'est une chanson que j'écoute souvent. C'est cela. Qu'est-ce qui fait qu'on soit tous ensemble et que finalement, quelqu'un reçoit une parole de Dieu et l'autre ne reçoit pas? C'est parce que l'autre n'est peut-être pas attentif. Il ne prend pas Dieu au sérieux, il ne considère pas que quand on parle là, c'est Dieu qui est en train de me parler parce que Dieu veut que je change quelque chose en moi. Parce que Dieu veut me bénir, mais il veut que j'aie les bonnes dispositions pour qu'il puisse agir dans ma vie. On ne prend pas cela au sérieux. Mais quand on prend ça au sérieux, là, Dieu, lorsqu'il nous parle, on comprend. Même parfois, il n'y a même pas de parole, on voit une situation, on dit, ah, Dieu m'a parlé. Mais comment tu sais que Dieu... Non, je sais. Là, j'ai vu tel événement, j'avais prié et Dieu m'a répondu. Parce que on prend ça au sérieux. Un enfant te parle, tu dis, ah, là, c'est Dieu qui me parle. Celui qui prend Dieu au sérieux, eh ben, il néglige pas le message de Dieu. Il néglige même pas l'instrument que Dieu peut... Même un païen peut venir comme ça, dire, mais toi, mais tu chrétien, tu t'énerves comme ça. Ah, là, c'est Dieu qui m'a parlé autrement. Mais celui qui ne prend pas Dieu, il veut dire, oui, mais toi, tu crois même pas en Dieu, tu veux me parler. Ah, voilà. Quelle honte. Quelle honte. Mais celui qui prend Dieu au sérieux, il va dire, oui, ah oui, excuse-moi, je me suis emporté. Mais finalement, tu te retrouves seul, tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai manqué de maîtrise de soi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, transforme-moi, aide-moi, change-moi. J'ai besoin de toi, c'est ça. Le Seigneur veut qu'on le prenne au sérieux. Nous lisons Luc 18. Luc 18. À partir du verset 9 au verset 14. Luc 18. Neuf à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. » Quel courage, au lieu de s'occuper de lui, il s'occupe de l'autre. « Je jeûne deux fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève, pardon, sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Voilà le publicain qui se présente devant Dieu. Le publicain a conscience de qui est Dieu. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est contre le péché. Mais Dieu est miséricorde. Dieu pardonne. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui s'humilient. Voilà, c'est ça prendre Dieu au sérieux. C'est ça. Cet homme, on a lu, lui-même il dit il est pécheur. Il est pécheur. Ce n'était pas un homme super, super, super spirituel. Peut-être qu'il n'avait pas ces paroles que nous avons, il ne connaissait même pas la Bible. Mais voilà comment il se présente devant Dieu et il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi, aie pitié de moi. Je ne peux même pas m'approcher de toi. Regarde ma vie. Mais puisque tu pardonnes celui qui se repent, alors Seigneur, je viens implorer ton pardon. Amen. Seigneur, je viens implorer ta grâce encore aujourd'hui. Hier, j'ai prié, Seigneur, mais j'ai désobéi, j'ai péché. Mais Seigneur, aujourd'hui, je reviens encore. Seigneur, pardonne-moi. On voit la différence d'attitude. Le premier est là, il se tape la poitrine. Non, c'est le deuxième qui se tape la poitrine. L'autre, il est là, il sort son palmarès, son CV. Je jeûne, je fais ceci, je suis correct, je suis. Dieu est un ami. Dieu est un compagnon de route. Finalement, dans tout ce qu'il écrit là, il devient lui-même Dieu. Lui-même est Dieu, il est son propre Dieu. Et non seulement il s'occupe de lui, mais il va même à s'occuper de l'autre pour dire, regarde, je ne suis pas comme l'autre. Je ne suis pas comme les autres. Lorsqu'on a conscience de Dieu, ça nous met dans une position d'humilité. On devient indulgent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on réalise que si moi j'arrive à pardonner, si le Seigneur me fait la grâce de parler avec sagesse, ce n'est que la grâce de Dieu. Alors quand mon frère va manquer de sagesse, va mal parler, plutôt que de lui dire « Ah, toi aussi !» Non, on réalise que c'est la grâce de Dieu. Même si on reprend l'autre, on dit « On va prier pour que le Seigneur t'aide. » Mais notre attitude à nous change parce qu'on réalise que tout ça, ça vient de Dieu, cette capacité-là. L'apôtre Paul dit « Notre capacité que nous avons, ça vient de Dieu, on n'a aucune capacité nous-mêmes. On n'a aucune capacité. Ça vient de Dieu. Quand on voit la faute de l'autre, plutôt que de commencer à s'énerver, on dit, Seigneur, comme tu m'as fait la grâce, comme tu m'as changé aussi alors que j'étais aussi dans le même cas, alors je crois que tu peux aussi changer l'autre. Puisque tu ne fais pas de favoritisme, puisque je peux témoigner de ce que j'étais autrefois et de ce que tu as fait de moi aujourd'hui, Alors Seigneur, je crois que tu peux le faire aussi dans la vie de l'autre. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le publicain qui prend conscience de qui est Dieu. Quand il vient dans la présence de Dieu. On a bien dit, venir dans la présence de Dieu, entendons-nous. Ce n'est pas venir dans cette salle. Ce n'est pas venir dans cette salle. Parce qu'on peut être correct ici, mais ici, là, on a commencé à 10h. Là, il est bientôt midi. Bon, on reste sur la chaise assis, on est tranquille, hein. Quand on te regarde, on dit « Ah, mon frère, il est... » Ah, mais la véritable vie, c'est à l'extérieur, c'est avec ceux qui sont autour de nous. Donc, quand on dit « entrer dans la présence de Dieu », c'est partout où tu es. Là où tu as conscience que Dieu est là, eh bien, ton attitude aussi change. Tu étais peut-être léger, tu fais des blagues avec quelqu'un, des blagues qui ne glorifient pas Dieu, tu prends conscience, « Ah, mais comment je peux parler, Seigneur, pardonne-moi. Comment je peux parler comme ça ?» Je me suis laissé aller à la chair, à la facilité. On prend conscience de cela, on se ressaisit. On dit non, je ne peux pas faire ça. Et c'est ça l'attitude de cet homme, le publicain. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Cet homme se remet en question. Il reconnaît que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est lui le problème. Je suis pécheur. Il s'humilie. L'humilité. Et la troisième chose, il se repent. C'est ça, quand on réalise que Dieu est là, quand on réalise qu'on est dans la présence de Dieu, c'est ça. Bien-aimé, lorsqu'on dit souvent, le modérateur dit, nous allons commencer notre temps de prière 2 minutes avant, ou nous allons commencer le culte. Mais l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est que tu prennes 30 secondes seul avec Dieu pour dire, Seigneur, je suis venu aujourd'hui, peut-être parce que c'est vendredi, peut-être parce que c'est dimanche, mais délivre-moi de cette religiosité, cette motivation qui est mauvaise. Seigneur, là, je suis là puisque je veux t'entendre. Seigneur, je suis là aujourd'hui puisque je vais vivre la communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas la force de prier. Je n'ai même pas l'envie. Mais donne-moi l'envie. Donne-moi la force de prier. Tu prends ce temps-là avec Dieu, seul. Puisque tu sais que le Seigneur est présent. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que tu viens chercher ? Et cet homme qui se présente devant Dieu, le publicain, il savait, il avait conscience de qui était là. Il dit, aie pitié de moi. C'est cela. Prendre Dieu au sérieux. David a pris Dieu au sérieux. Nathan vient voir David pour lui dire, tu as péché contre Dieu. Il raconte une histoire. Quelle est la réaction de David ? Il dit, cet homme-là, c'est moi. Pourtant, Nathan lui dit, et voilà, cet homme-là mérite la mort. Est-ce que David... C'est une parabole qu'il raconte. Hein. À ce moment-là, je pense que, là, quand on te parle comme ça, tu dis, ah, moi, je n'ai pas compris ce que tu dis. David n'a pas cherché midi à 14h. Nathan lui parle, il a l'esprit de Dieu. Mais non seulement ça, il a conscience de qui est Dieu. Il dit, là, Dieu m'a dévoilé. David était roi. Roi. Finalement, avouer sa faute devant le prophète de Dieu, il faut aimer Dieu. Parce que le roi de cette époque, c'est comme le roi au Maroc encore, il y a un semblant de démocratie. Mais c'était le roi donc, qui règne, comme il est écrit dans 1 roi 8, quand le Seigneur parle, il dit « ne veux pas de moi ». Mais le roi qui va venir, il aura droit sur tout. Sur leurs femmes, sur leurs enfants, sur les terres. Il aura pouvoir de vie et de mort. Et c'était ce roi-là que David était. Et Nathan lui parle, il n'a pas cherché à discuter. Mais tu vois, hein, le contexte, non. Nathan lui parle, il dit, cet homme-là qui mérite la mort. c'est moi. Voilà un homme qui prend Dieu au sérieux. Voilà un homme qui craint Dieu. Dieu dit de lui l'homme selon mon cœur. Alors posons-nous la question lorsqu'on vient te reprendre. On dit, mais bien-aimé, regarde. Voilà ce que la Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Tu vas dans l'église catholique, oh vous aussi là, les chrétiens là, vous exagérez. Non, prenons Dieu au sérieux. Ce n'est pas ce que moi je pense. C'est ce que Dieu lui-même dit qu'il est, qu'on doit suivre. Oh, où est le mal? Ah, il y a un mal parce que la Bible dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Ésaïe 42, 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun homme, il n'y a aucune idole. On ne peut pas mélanger Dieu et autre chose. Je me rappelle toujours l'histoire qu'on nous a racontée, un homme qui avait dans son portefeuille la photo d'une personne qu'il a connue autrefois, avec qui il a partagé sa vie. Et imaginons qu'il a refait sa vie et sa nouvelle compagne voit la photo dans le portefeuille. Elle dit, mais c'est qui la photo? Oh, tu sais, monsieur, ça c'est le passé. Hein. Mettons-nous à la personne actuelle. Là. Elle va dire, c'est juste une photo. C'est juste une photo, c'est une histoire passée. Non, elle ne va pas se réjouir de cela. Elle ne va pas se réjouir de cela. Mais cet exemple est là pour nous montrer que Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas avoir des pratiques qui ne glorifient pas Dieu et dire, bon, autrefois j'étais catholique, autrefois j'étais... Non. Si tu veux venir à Dieu, eh ben, abandonne tout cela. Suis maintenant Dieu seul, lui seul. Nathan parle à David. David, à vous. Il dit, c'est moi. Dieu dit à David, tu ne feras pas le dénombrement. David le fait quand même. Il désobéit, il pêche. Et il y a quelque chose qui me touche toujours lorsque je lis ce passage. Il est écrit, le cœur de David a commencé à battre. Quand il a péché, il a cédé à la chair. Arrivé à un certain moment où il est fort, il est grand, il fait le dénombrement pour voir les troupes, combien il dirige. Mais une fois qu'il a fait ça, son cœur a commencé à battre. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il s'est dit, non, là, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Et là, l'homme de Dieu vient le voir pour lui dire, écoute, il y a trois fléaux. David ne s'est pas dérobé. Il a accepté le jugement de Dieu. David a pris Dieu au sérieux. Lorsqu'il se retrouve devant Saül, il a l'occasion de se venger, de tuer Saül. Il dit non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Voilà un homme qui a conscience de qui est Dieu réellement. C'est ça. Il aurait pu tuer Saül et dire c'est la légitime défense. Saül a voulu me tuer, alors je l'ai fait le premier, non. Il dit non, la méchanceté appartient aux méchants. Dieu s'occupera de faire justice. C'est cela. Quelqu'un qui prend Dieu au sérieux. Et le but de cette exhortation de ce matin, c'est nous amener à prendre Dieu au sérieux. Les exemples qu'on donne de David, ce sont des exemples où David a péché. Mais malgré tout cela, David a reconnu. C'est ça quand le Seigneur a dit que ton nom soit sanctifié. Donc, tu reconnais que non, le problème, c'est moi. Dieu, son nom, je ne peux pas l'associer aux bêtises. C'est moi qui ai mal fait. Alors, Seigneur, pardonne-moi. C'est ça. Prenons Dieu au sérieux dans notre marche de tous les jours. Prenons le Seigneur au sérieux. s'il y a de la négligence qui s'est manifestée dans notre attitude, si on a pris le nom de Dieu en vain, que le Seigneur nous parle ce matin. S'il y avait la légèreté, comme on l'a cité tout à l'heure, les retards. Parce qu'on s'est mal organisé. Disons, Seigneur, Seigneur, je prends conscience aujourd'hui de qui tu es. Je prends conscience aujourd'hui de ta grandeur. Seigneur, je prends conscience aujourd'hui que tu es le Tout-Puissant. Et qui suis-je pour murmurer, pour discuter, pour contester tes choix, comme il est écrit dans la parole? C'est comme on nous avait raconté l'histoire d'une personne qui témoigne, qui dit « Dieu a guéri mon cœur. » Parce qu'à un moment donné, oui, et la personne dit « J'ai pardonné à Dieu. » J'ai pardonné à Dieu. Qui peut pardonner à Dieu? Donc pardonner Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a mal fait les choses. Dieu a fait une faute. Dieu s'est trompé. Peut-être parce que j'ai été abusé, peut-être parce que j'ai vécu une enfance difficile, j'ai vécu l'injustice. Et il a dit, maintenant, j'ai pardonné. Ah! J'ai pardonné à Dieu. Qui peut? Qui? C'est ne pas prendre conscience de qui est Dieu. Quand on sait qui est Dieu, on parlera comme cet homme. On dira, Seigneur, non, ce n'est pas toi. C'est moi le problème, je suis pécheur. Seigneur, ce n'est pas toi le problème, c'est moi qui suis le problème. Alors pardonne-moi parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Parce que je me suis laissé aller à une forme de délire. Pardonne-moi, Seigneur. Mais c'est cela. Et le Seigneur finit par dire à cette église de Laodicée, Apocalypse 3, 14. Il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort, tu es tiède. Il dit, sois bouillant ou alors sois froid. Mais sois honnête. En disant, Seigneur, la vie que tu me proposes, j'ai l'impression qu'elle est difficile pour moi. Alors aide-moi. Ou alors pour les plus courageux, dis, je ne suis pas prêt pour le moment. Mais sois honnête. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on prenne son nom en vain. Ça, le Seigneur ne veut pas. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à le prendre au sérieux. Que le Saint-Esprit nous parle dans tout ce qui n'a pas été dit ce matin. Que le Saint-Esprit nous parle. Quand on dit Jésus, 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 et qu'ensuite on ment normalement, comme si de rien n'était. Et qu'on n'est même pas dérangé, c'est très dangereux. On a beau prier toute la nuit, mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est une forme de moquerie vis-à-vis du nom de Dieu. Et la Bible, Dieu lui-même me dit, je ne laisserai pas impuni. Donc, moi-même, je vais m'occuper de cette personne-là. Prions afin que le Seigneur nous aide à prendre son nom au sérieux. Qu'il nous donne la force de vivre sa parole. Qu'il nous donne la force de faire le choix d'obéir à sa parole au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole ce matin. Moi, le premier, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons te prendre au sérieux, Seigneur. Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, que le rassemblement ce matin n'est pas un amusement où on vient écouter un meeting politique, Seigneur. Mais tu nous fais prendre conscience que le rassemblement de ce matin, Seigneur, c'est de venir te servir, de venir écouter ta parole, de venir être transformé, touché. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à te prendre au sérieux. Seigneur, aide-nous. Tu vois notre chair, Seigneur, qui tombe rapidement dans la routine, dans les habitudes et qui ne fait plus cas, Seigneur, de tes avertissements, de ta parole. Tu vois notre chair, Seigneur, qui Seigneur, pense que nous sommes forts, Seigneur, par nous-mêmes. Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur, ce matin. Nous te demandons pardon, nous prions pour que ton esprit agisse dans nos cœurs, afin que nous puissions te prendre au sérieux. Ô Seigneur, c'est toi qui es le Dieu fidèle. Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Seigneur. Je viens m'humilier, Seigneur, devant toi. Reconnaître qui tu es. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les négligences. Au moment, Seigneur, de prier, au moment de te servir, nous trouvons toutes sortes d'excuses. De légèreté, comme si tu avais besoin de nous, Seigneur. Comme si tu avais besoin de nous. Seigneur, agis dans nos cœurs, Seigneur. Agis dans nos cœurs. Seigneur, c'est vrai, Seigneur. C'est à toi, Seigneur, que nous adressons nos prières parce que nous avons conscience que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui fait miséricorde. Seigneur, il est écrit, si tu devais tenir compte de notre péché, qui pourrait subsister, Seigneur? Si, Seigneur, tu devais tenir compte de notre incrédulité, Seigneur, de notre orgueil, qui pourrait, Seigneur, être là aujourd'hui, Seigneur? Seigneur, nous réalisons, Seigneur, qui tu es, Seigneur, ce matin. Et, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce, Seigneur, et qu'au travers, Seigneur, de ta parole, nous puissions prendre conscience de qui tu es. Peut-être que nous étions dans une forme de négligence, une forme d'habitude, Seigneur, sans réfléchir, Seigneur, sans méditer, Seigneur, sur ta personne, Seigneur, aujourd'hui. Venons, Seigneur, nous repentir, Seigneur. Venons te demander pardon, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, que nous puissions te considérer, Seigneur. Lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, que nous puissions réaliser que nous n'avons pas affaire à un homme, Seigneur, mais à toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, même ce que nous pouvons cacher, toi, tu le vois, Seigneur. C'est la prière que cet homme a fait, ce publicain. Il n'a pas voulu cacher parce que toi, tu lis dans les cœurs, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Oh Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, ce matin, à te prendre au sérieux. Seigneur, merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que tu veux, Seigneur, être notre chef, tu veux manifester ta gloire dans nos vies. Mais cela passe par le fait de réaliser que tu es le Dieu de gloire, Seigneur, et que nous n'avons pas à te prendre à la légère. Que, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous supplier. Nous nous rappelons, Seigneur, cette histoire dans Matthieu 22. Les noces, cet homme, ce roi qui faisait des noces pour son fils, qui a appelé ses invités, qui ont refusé de venir. Seigneur, à plusieurs reprises, nous avons été comme ses invités. Nous avons pensé que tu avais besoin de nous, Seigneur. Nous avons pensé que nous étions indispensables. Mais aujourd'hui, nous réalisons, Seigneur, que nous nous sommes trompés, Seigneur. Et nous venons nous humilier, Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit qui continue son œuvre dans nos cœurs. Et que cette parole que nous avons entendue puisse, Seigneur, nous amener à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.